Vous écoutez France Inter, première radio de France, il est 19h. Et le journal est présenté par Yves Decamps. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Tout faire pour convaincre les partenaires de la France dans sa présentation des enjeux du G7 qui s'ouvre ce soir à Biarritz. Emmanuel Macron a dit espérer des accords utiles pour le climat, la biodiversité et contre les inégalités. Parole, parole, répondent les manifestants du contre-sommet qui ont défilé dans le calme à Hendaye. La querelle des anciens et des modernes à l'université du PS à La Rochelle. Les amis de François Hollande, pas d'accord avec la proposition de Raphaël Glucksmann de dépasser les vieux partis. Dans ce journal également, ils sont les oubliés de la libération de Paris en 44. Les soldats républicains espagnols ont pourtant été les premiers à entrer dans la capitale le 24 août. Une fresque leur rend aujourd'hui hommage. En sport, le 15 de France retombe dans ses travers, battu 17-14 par les Écossais pour leur deuxième match de préparation à la Coupe du Monde. Enfin, du soleil et de la chaleur encore demain. Jusqu'ici tout va bien et c'est Donald Trump qui le dit. Le président américain qui a déjeuné ce midi avec Emmanuel Macron veut croire que de nombreuses choses vont être accomplies ce week-end à Biarritz. C'est aussi ce qu'a souhaité le chef de l'État dans une adresse aux Français à la mi-journée en disant espérer des accords utiles pour le climat, l'Amazonie, contre les tensions commerciales. On va y revenir. Mais les désaccords sont tels de part et d'autre de l'Atlantique qu'on imagine difficilement ce qui pourrait sortir de concret de ce sommet du G7 qui s'ouvre donc ce soir au pied du phare de Biarritz où un chapiteau a été installé et où vous vous trouvez Bertrand Galichet. Alors quel est le programme de cette soirée informelle, sans ordre du jour précis apparemment?
Eh bien, les dirigeants qui bénéficient d'une météo estivale sont attendus d'ici une demi-heure pour une photo de famille, une soirée réservée aux seuls membres du G7. Ils participeront ensuite à partir de 20h30 à ce dîner en petit comité. Les affaires du monde pourront y être discutées sous une pergola devant le phare de la pointe Saint-Martin. Entre la pipérade, le thon aux pommes de terre et le gâteau basque, les sept pourront au moins acter ce qui les sépare. Emmanuel Macron a rencontré la plupart d'entre eux depuis le début de l'après-midi, plus une réunion de coordination avec les Européens pour tenter de rapprocher les points de vue en déployant beaucoup d'efforts. Mais sur certains sujets, comme le climat, il sera bien difficile de convertir Donald Trump. Et vous savez que même l'Allemagne ne veut pas remettre en cause l'accord Union européenne-Mercosur pour faire pression sur le gouvernement brésilien et sa politique de déforestation en Amazonie. Ce soir, ce sera aussi le premier vrai dîner international de Boris Johnson dans ses nouveaux habits de chef du gouvernement britannique. Il sera forcément observé.
Alors avant le dîner, il y a eu ce déjeuner Macron-Trump improvisé, hein, puisqu'il n'était pas à l'agenda.
Oui Yves, une improvisation qui tombe à pic. Selon l'Elysée, la rencontre a permis de trouver des éléments de convergence sur les grands dossiers du G7. Ce format en tête-à-tête est semble-t-il assez inhabituel pour Donald Trump. La France insiste également sur la durée de l'entretien, 2 heures. On pourrait y voir un marqueur de la bonne relation personnelle entre les deux dirigeants. C'est aussi lié, dit-on, à l'ampleur des sujets à traiter, on s'en doute, avec la volonté d'aller au fond du débat. L'idée d'un retour à l'exportation du pétrole iranien si Téhéran respecte à nouveau le traité sur le nucléaire ferait son chemin. Autre sujet sensible, la taxation voulue par la France des géants du numérique. Là encore, le président français entend diminuer la pression. Sa politique n'est pas anti-américaine, a-t-il expliqué, mais les réalités doivent être prises en compte. Le ministre français de l'économie et le secrétaire américain au Trésor vont en discuter dans les heures qui viennent.
Bertrand Galichet à Biarritz avec Sandrine Malon. On l'a dit, le chef de l'État a voulu présenter lui-même aux Français à la mi-journée les enjeux de ce G7 qu'il veut utile à la désescalade sur les tensions commerciales qui sont mauvaises pour tout le monde, dit-il, utile pour le climat et la biodiversité. Sur ce point, Emmanuel Macron veut notamment mobiliser le transport maritime et l'industrie textile, important pourvoyeur de gaz à effet de serre et de déchets. Et il promet d'essayer de mobiliser les grandes puissances également sur l'Afrique, les inégalités, notamment les inégalités hommes-femmes, d'essayer sans être sûr de rien, bien sûr.
Nous ne réussirons sans doute pas sur tout. Et ne m'en voulez pas si parfois nous n'y arrivons pas. La France doit faire le maximum, mais nous ne pouvons pas tout seul. Mais je veux que ce G7 soit utile. Et autour de ces 3 grands sujets, la sécurité, l'économie et la lutte contre les inégalités, je crois que nous pouvons en faire un rendez-vous essentiel. Notre monde est à un moment de bascule. Et je crois que notre vocation à nous, Français, c'est d'être dans la proposition, l'inspiration, d'essayer de réduire les désaccords, de ne pas céder aux faiblesses du temps présent, d'avoir cet esprit de résistance qui fait de se dire Il n'y a pas de fatalité. On doit se battre et conduire les autres à se battre avec nous contre ces injustices ou ces absurdités. Alors je vous promets en votre nom de faire le maximum pour mettre mes collègues d'accord sur ces sujets, pour qu'on arrive à faire bouger les choses ensemble.
Emmanuel Macron qui se veut volontariste et modeste à la fois, mais qui n'aura pas vraiment convaincu, bien sûr, ni à gauche ni à droite, sous réserve de ce qu'il obtiendra lundi, bien sûr. En attendant, le député Les Républicains de l'Ain, Damien Abad, ne voit dans ses propos qu'incantation et coup de menton. Il est au téléphone de Delphine Lefebvre.
C'est un catalogue de bonnes intentions tout à fait louable et que chacune et chacun d'entre nous peut s'y retrouver. Moi, je souhaite que la France réussisse et je souhaite que le G7 soit un succès, mais j'ai un doute, et notre doute, il vient toujours de l'arrogance présidentielle, du sentiment parfois qu'on a un peu un président de la République qui fait cavalier seul, qui veut imposer les sujets, qui veut imposer les conclusions, qui veut imposer les thèmes, sans avoir pris au préalable des concertations avec les autres chefs d'État. Et donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on aboutisse à des résultats. On ne veut pas un G7 pour rien. On ne veut pas un G7 fait de communication, de coups de menton et de petites phrases.
À gauche, sans préjuger non plus de ce qui sortira de ce G7, on ne croit pas beaucoup au miracle. Pour le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, proposer des chartes aux industriels ne suffira pas. Les mots du président sonnent creux, dit-il, et c'est ce que pense également Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam France.
Emmanuel Macron s'est positionné comme une sorte de champion de la diplomatie climatique, avec deux problèmes. Le premier, c'est que c'est beaucoup dans le discours, et le deuxième, c'est que ça ne se traduit pas dans les actes, en particulier en France. Maintenant, on peut faire un bilan de l'action écologique d'Emmanuel Macron, qui est très en deçà de ce qu'il faudrait faire et qui parfois même se caractérise par certaines contradictions. Une des causes du dérèglement climatique, c'est un système économique très prédateur de nos richesses. Donc si on ne réinvente pas un système économique différent, c'est très contradictoire de dire qu'on va rendre la planète plus vivable. C'est pas une question d'intérêt ou de non-intérêt, c'est une question de principe, de réalité.
Cécile Duflot avec Bernard Thomasson. Des doutes et des critiques que partagent évidemment les manifestants du contre-sommet. 9 à 15 000 personnes, selon les sources, qui ont défilé ce matin dans le calme, entrant Daï et Iroun, Mathilde Dehimi.
Slogan anticapitaliste et anti-G7 en basque, effigie des chefs d'État tournés en dérision, les manifestants ont aussi largement moqué le dernier discours écologiste d'Emmanuel Macron comme Virginie.
Là on est pris dans l'urgence, il faut faire des choses et c'est dommage parce que du coup dans l'urgence on n'a pas forcément le temps de construire de façon positive et raisonnée les alternatives qu'on pourrait imaginer tout de suite. Ce qui devrait être fait en premier, c'est de dire la vérité. Si les gens, tous, étaient au courant de ce qui se passe, ils voudraient d'eux-mêmes des mesures beaucoup plus fortes pour avancer réellement.
Dans la main de Patrick, un panneau, Macron, président des pollueurs. Il représente les opposants au projet de Montagne d'Or en Guyane.
On sait qu'il a des belles paroles, mais dont les actes ne correspondent pas du tout à ce qu'il dit. En Guyane, il y a 360 000 hectares de forêts primaires qui sont livrés à l'extractivisme minier pour de l'or dont on n'a rien à faire.
L'Amazonie qui brûle, le Mercosur, accord de libre-échange entre Sud-Américains et Européens, font partie des discussions du G7. Mais attention à ces discours, prévient Aurélie Trouvé, porte-parole de la centaine d'associations du contre-sommet.
Il est en train de détourner l'attention sur le Mercosur, alors que dans ces semaines, se joue un autre accord liberticide entre l'Union européenne et le Canada. Ce sera néfaste pour le climat. Or, Emmanuel Macron s'assoit dessus et continue à appuyer cet accord-là.
Des associations qui ont travaillé ensemble pour réduire les inégalités fiscales et sociales, matière à une rentrée très militante, disent-elles. Andaille, Mathilde De Marc Garvenès, France Inter.
Et en ce moment même, les anti-G7, quelques centaines d'entre eux, ont investi quelques rues de Bayonne. En politique, après les universités d'été des Verts et des Insoumis, tout ce week-end à Toulouse, le PS s'est donné rendez-vous à La Rochelle, ce qu'il n'avait pas fait depuis 4 ans. Un PS rassuré d'avoir sauvé les meubles aux dernières européennes et qui cherche encore à poser les bases de sa refondation. C'est là que le bât blesse. L'appel de sa tête de liste, Raphaël Glucksmann, a dépassé les vieux partis. C'était jeudi matin sur France Inter, a piqué au vif les fidèles de François Hollande, qui verrait bien son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve en candidat du parti pour 2021. De Laurence Perron.
Ça ne passe pas pour beaucoup l'interview de Raphaël Glucksmann sur France Inter expliquant qu'il faut dépasser le vieux parti pour construire une grande alliance sociale écologique. Valérie Rabault, la patronne des députés socialistes, ne décolère pas.
Pour moi, l'idéal n'est pas qu'on se retrouve dans une brouette. Donc mon idéal, c'est la société humaine. Et partir du réel, comme le dit Jaurès, c'est effectivement une situation écologique qui ne peut pas continuer comme ça, mais qui n'est pas le pilier de mon engagement. Moi, je vous dis que je ne suis pas d'accord, et je vous le dis fermement, et sujet vers complément. Voilà.
C'est du coup au premier secrétaire Olivier Faure de jouer les casques bleus.
Ni effacement, ni isolement. Ne cherchons pas, par des débats prématurés, à handicaper ce que nous devons faire ensemble. Moi, je ne sais pas quelle forme prendra ce rassemblement, mais je sais qu'il est impératif, parce que l'effacement, il a déjà eu lieu.
Bien plus cash, l'intervention de l'ancienne présidente du MJS, Laura Slimani.
Si on est d'accord pour faire tout ça et que ensuite, à la fin, ça se termine par un appel à la raison et la candidature d'un ancien ministre et premier ministre du quinquennat Hollande, on va avoir un petit problème de cohérence.
On se croirait presque revenu au temps glorieux de La Rochelle où ça défouraillait dans les restos avoisinants au moment des débats. La bande des tontons flingueurs de l'époque Hollande s'est-elle donné rendez-vous en septembre à Avignon pour accrocher cette fois le premier étage de la fusée Cazeneuve en vue de 2022.
Laurence Perron, c'était le 24 août 44. Ils ont été les premiers à entrer dans Paris occupé, ce qui ne se sait pas généralement. Les Espagnols de la Nueve, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, sont arrivés par la porte d'Italie 24 heures avant le gros des troupes de la 2e DB dont ils faisaient partie. C'est pour leur rendre hommage qu'un artiste a peint une grande fresque sur les murs d'un immeuble du 13e arrondissement. Fresque officiellement inaugurée ce samedi en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour redonner à ces soldats oubliés leur place dans l'histoire. Delphine Evenou.
Le 24 août 1944, alors que les Parisiens se sont soulevés quelques jours plus tôt,
et soudain claquent les premiers coups de feu.
Ces soldats espagnols, républicains antifranquistes, anarchistes pour la plupart, entrent dans Paris par la porte d'Italie. Il est 20h. Une heure et demie plus tard, ils atteignent l'hôtel de ville. Le reste des troupes armées n'arrive qu'après. Les combattants de la Nueve sont en première ligne car ils ont l'expérience de 3 ans de guérilla en Espagne.
Ils étaient complètement aguerris.
Juan Chica Ventura, peintre, auteur de la fresque en hommage à la Nueve.
Ils étaient exceptionnels. Ce qui est drôle, c'est que c'était tous des antifascistes, mais c'était aussi des antimilitaires. Mais quand ils ont pris les armes, ils y allaient, quoi.
Alors pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que leur rôle soit mis en lumière ? Pour des raisons politiques, raconte Véronique Olivares-Salou, présidente de l'association 24 août 1944.
La France a eu une politique collaborationniste. Quand De Gaulle arrive à la tête des forces françaises libres, il faut absolument une libération franco-française.
Et l'après-guerre a été très dur pour ses combattants, seul face à Franco jusqu'à sa mort. Le père de Marie-Luz Carino Lopez était chauffeur canonnier dans la Nueve.
Vraiment, moi, je parle de sentiment de trahison. Après s'être engagé pour la libération de la France et pensant être soutenu après contre le dictateur Franco, bon, ils ont eu l'impression qu'on les laissait tomber.
Les Espagnols de la Nueve sont 146 quand ils débarquent en Normandie. Ils ne seront plus que 16 à la fin de la guerre en 45.
Delphine Evenou. En rugby, c'était à craindre pour les Bleus après leur large victoire de la semaine dernière sur les Écossais 32-3. Ils sont retombés dans leur travers, s'inclinant à Édimbourg 17-14. Les Écossais se sont vengés, bien aidés par des Bleus à côté de la plaque, mais qui veulent rester optimistes, Fanny Lechevestrier.
Avec des Bleus qui maîtrisent parfaitement l'art du contre-pied. Après leur belle performance du week-end dernier à Nice, on attendait, on espérait en effet un nouveau succès face à des Écossais, certes plus hargneux, mais toujours pas au sommet de la technique ratée. Les Bleus ont donc perdu pour la 3e fois d'affilée à Murrayfield, mais le contre-pied s'est compensé, les retrouver après le match de nouveau abattu. Eh bien non, pour le pilier de Jefferson Poirot, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Moi, je sors de ce match, je préfère être français qu'écossais aujourd'hui. Voilà, perso, ils en ont pris 30 la semaine dernière. Aujourd'hui, ils gagnent 2-3 points, ils se grattent la tête. Donc, se construit. On a fait quelques erreurs. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais tant qu'il y aura l'état d'esprit, on ne pourra pas être inquiet.
Et l'arrière, Maxime Médard, d'expliciter le discours tenu par l'ensemble des joueurs interrogés.
Encore une fois, on est en prépa, on prépare une Coupe du Monde. C'est sûr qu'on aurait aimé gagner aujourd'hui, mais on a une bonne défense. Je pense qu'on a de bonnes bases pour les semaines futures.
Et paradoxalement, le Toulousain n'a pas tort. Malgré 2 essais encaissés, les Bleus ont été meilleurs en défense que samedi dernier. On n'en dira pas autant de l'attaque tricolore. À Édimbourg, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et au même moment, l'Angleterre écrasait l'Irlande 57-15. Prochain match pour les Bleus vendredi au Stade de France contre l'Italie. En sport, un plateau de choix au meeting de Charletti tout à l'heure à Paris, à un mois des mondiaux. Là aussi, deux Français toujours en quête de qualification. Reynel Lamothe sur 800 mètres et Christophe Lemaître sur 200. Sans oublier aussi ce soir à voir les stars tricolores, Lavillenie, Boss et Maillère. guerre. Autre équipe de France qui prépare un mondial en basket avec plus de réussite que les rugbymen, c'est même son cinquième succès d'affilée, une victoire sur la Nouvelle-Zélande 95-81. Pour ces bleus-là, les basketteurs, le mondial c'est dans une semaine face à l'Allemagne. Sur la route, les derniers retours de vacances, dernier ralentissement en vallée du Rhône, Romain Bercher.
Oui, des irréductibles bouchons en direction du nord sur l'autoroute A7 où vous perdez 1h10 sur le trajet d'Orange à Lyon. Dans l'autre sens, vous mettez 2h de Lyon vers Orange, soit une demi-heure de plus. Mais la tendance est clairement à l'amélioration en ce début de soirée. C'est le cas sur l'autoroute A9 de Perpignan à Orange, plus que 20 minutes en plus sur votre temps de parcours. Vers l'Atlantique, sur l'A10 de Bordeaux à Paris, vous rencontrez encore de petites difficultés jusqu'à Tours. Puis au péage de Saint-Arnoult, vous mettez plus de 10 minutes pour le franchir. Après, en région parisienne, c'est beaucoup plus calme avec seulement 24 km de bouchons cumulés ce soir.
Romain Bercher, OPC Mobilité de Radio France. Le temps du soleil et de la chaleur encore demain, Jean-Michel Golinski.
Globalement, poursuite du temps à caractère estival demain sur la plupart des régions, sous un soleil souvent rayonnant. Petit bémol, les grisailles de la première partie de la journée, surtout concentrées sur la façade atlantique de la Bretagne en allant vers le sud de la Garonne, également sur les rives du Languedoc et du Roussillon. Mais passé la mi-journée, l'évolution de toutes ces entrées maritimes sera favorable. Reste, comme ces derniers jours, à parler des développements d'orages possibles sur les Alpes et la montagne Corse. La nuit sera respirable, entre 13 et 18 degrés en général. L'après-midi, les valeurs vont perdre un peu par rapport à aujourd'hui sur la frange atlantique. La baisse sera minime, de l'ordre de 2 à 3 degrés. Tandis que plus à l'est, là les températures vont grimper un peu plus haut qu'aujourd'hui, vers 31 à Strasbourg, 32 à Dijon et Lille, 33 à Lyon, Paris et Marseille.